Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonsoir à tous, à chacun, et nous allons lire un premier texte dans le Nouveau Testament. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et nous allons lire à partir du verset 17, et c'est ce qui va, entretenir notre méditation ce soir sur le sujet que nous allons porté devant nous, c'est le principe, et nous allons voir l'histoire ensuite dans un autre texte. Alors voilà ce que Paul a écrit à ses chrétiens de Corinthe, et il dit ceci, donc, chapitre 5, verset 17, il dira, il affirmera, « Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est un chrétien, alors, il est une nouvelle créature. » Dans d'autres traductions, il est une nouvelle création. Et il est précisé que les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Alors je vais le relire parce qu'on va s'imprégner de cette parole, c'est la vérité. Hein, Paul est en train d'exposer d'une manière très brève l'œuvre que Dieu accomplit dans nos vies, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Et il est bien question que si quelqu'un est en Jésus-Christ, s'il est en Christ, si les chrétiens n'ont pas de nom ou de tradition, ou voire même de baptême, parce que tout enfant, il a été introduit dans une religion chrétienne, ce n'est pas cela. Mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, c'est une nouvelle créature, c'est un homme nouveau. C'est quelqu'un qui a passé par une expérience de transformation, de régénération. C'est ainsi que les choses sont dites. Et naturellement, les choses anciennes sont passées. La vie, quelle qu'était la vie de cet homme ou de cette femme, son histoire, son passé, tout cela, ce sont des choses qui ont disparu. Il y a peut-être le souvenir, mais ce n'est plus le propre de la vie de la personne en question. Alors, les choses anciennes sont passées. Et comme à travers ce petit mot qui apparaît, voici comme un miracle en quelque sorte, une chose devant laquelle on va s'extasier, voici. Eh bien, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle façon de penser, une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de vivre. Un vécu qui est tout à fait diamétralement opposé au précédent. Et il nous est bien précisé que cela vient de Dieu, ce n'est pas l'homme. L'homme ne peut rien faire dans ce domaine. C'est pas lui qui va influer sur sa nature en disant il faut absolument que je change, donc je vais changer. On n'y peut rien. C'est Dieu qui fait le miracle. C'est Dieu qui est capable de transformer tout cela. Alors si vous voulez bien, on va ce soir parler d'un personnage qui véritablement illustre ce que Paul nous rappelle dans le principe, nouvelle créature, nouvelle création. Un homme nouveau, un homme qui a changé radicalement, dont les preuves, nous pouvons les constater. Alors, on va parler d'un personnage, c'est un patriarche, c'est un homme qui est très connu dans la Bible, il s'appelle Jacob. Voilà. Alors Jacob, son nom, si nous le prenons comme cela, dans la traduction veut dire supplanteur. Quelqu'un qui prend la place d'un autre. Quelqu'un qui va s'immiscer dans les affaires ou dans la vie d'un autre personnage qui va l'évincer et qui va prendre sa place. Ça, c'est un supplanteur. C'est un usurpateur, exactement. Et on sait que les qualités de Jacob n'étaient pas des qualités. C'était plutôt des défauts. Et des défauts quand même assez caractérisés parce que il était réputé pour être un menteur. Il était réputé pour être un homme qui trompe. Un trompeur, si vous voulez aller par là. Et c'est vrai que son histoire est atypique. C'est l'histoire de sa vie qui nous est rapportée à travers le livre de la Genèse. On va en dire quelques mots. Ça va être peut-être un livre d'histoire avant que nous revenions au principe et de le souligner, de le mettre en évidence, ce principe. Et j'aimerais bien vous raconter un petit peu l'histoire, ce qu'a été Jacob avant, et à travers une expérience qu'il a fait avec Dieu, il est devenu un homme nouveau, une nouvelle création. Et pourtant, hier comme aujourd'hui, on lui donnerait pas certainement, on lui donnerait certainement pas une certification de bonne moralité, et de choses qui étaient loin d'être des qualités. Donc, c'est un homme atypique, mais on s'aperçoit que ça illustre également une autre situation que nous trouvons dans la Bible. C'est toujours le même apôtre Paul qui dira, dans un autre passage, il dira, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il a choisi quelque part, eh bien, des choses qui ne viendraient pas à notre esprit. On dirait, mais celui-ci, on n'en veut pas, hein, parce que on le connaît, on sait de quoi il est capable. Eh bien, c'est précisément ce challenge que Dieu, à travers la rédemption, à travers le message de l'évangile, le message du salut, eh bien, il n'est pas venu chercher des gens de réputation, de bonne réputation. Il n'est pas venu chercher des gens qui véritablement étaient au-dessus de tout soupçon. Il est venu chercher précisément des mécréants. Et puis des gens qui, quelque part, ne pouvaient certainement pas attirer la sympathie. Alors, Jacob, l'intrigant, on va l'appeler comme ça, est devenu l'ami de Dieu. Et ça, c'est formidable parce qu'il n'y a pas que cette histoire dans la Bible où nous voyons des gens, des hommes transformés. Et quelquefois, quand on dit de celui-ci ou de celle-là, je donne pas cher de sa tête, hein, il arrivera rien dans la vie, eh bien, on s'aperçoit que si c'est nous qui le disons, nous les hommes, Dieu est capable de nous prendre au mot en disant « Mais moi, j'ai quelque chose pour lui. Et je suis capable de faire de cet homme que tu juges ou que tu critiques et que tu n'aimes pas, eh bien, je suis capable d'en faire une nouvelle création, une nouvelle créature. » Donc, l'intrigant va devenir l'ami de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, en effet, assez intéressant à prendre en considération. Alors, laissez-moi, pendant quelques instants, de faire un survol de la vie de Jacob et vous allez voir que on peut pas dire que il était vraiment d'excellence. On va le voir ensemble. Tout commence par une intrigue de famille. Remarquez, faut bien dire que dans le jardin d'Éden, entre Adam et puis Ève, c'était aussi un problème de famille. Hein. Alors on pourrait comprendre que la famille d'aujourd'hui encore a été quand même aussi, à travers les siècles, escamotée, et que c'est aussi des histoires de famille. Alors, une histoire de famille qui était faite de fourberies. Où dans cette famille-là, eh bien, il y avait un père qui s'appelait Isaac, il y avait une mère qui s'appelait Rebecca, et puis ils avaient deux jolis, mignons jumeaux. Enfin, des jumeaux, voilà. Et on s'aperçoit qu'ils étaient très différents les uns des autres. Isaac était un père tranquille. Rebecca était aussi très intéressée parce qu'elle avait une préférence pour son fils Jacob. Alors, ça n'arrange pas les choses. Isaac, Jacob... Il y avait Ésaü, qui était un peu l'homme rustre, nature, qui lui, il n'y avait qu'une chose qui l'intéressait, c'était d'aller à la chasse. Bon, au moins il avait le grand air. Et puis, il y avait naturellement Jacob, dont nous avons parlé. Imaginez-vous que c'était assez détonnant, hein, comme composition familiale. Et ça, c'est sûr que... Il y en a un qui était particulièrement... Enfin, il y en avait deux qui étaient particulièrement fourbes, intrigants. C'était Rebecca, la maman, et c'était Jacob, le fils. Et... contrairement à ce que nous pourrions penser, parce qu'aujourd'hui, dans notre temps, on court pas après, hein. Jacob avait une ambition, c'était un ambitieux. Il voulait absolument, alors qu'il était le fils cadet, que normalement, en ce temps-là, la bénédiction paternelle, le droit d'aînesse, revenait au fils aîné. Le fils aîné, c'était donc Ésaü. Et lui, il a tout fait. Il a mis tout en œuvre pour tromper son père, avec des subterfuges que, si vous avez envie de savoir ce qu'il a fait, vous relirez le passage et vous verrez que il a même été capable de se déguiser en peau de chèvre. Enfin bon, ça c'est l'histoire, mais vous verrez, pour avoir la bénédiction, il voulait absolument avoir la bénédiction, alors il a trompé son père d'une manière honteuse, il a roulé son frère, pas moins, et ça s'est terminé par une grosse colère, c'est-à-dire que le frère aîné, quand il a vu que la bénédiction n'était pas pour lui, il a voulu tuer Jacob. Et Jacob, il lui restait plus qu'une chose à faire, c'est de prendre la fuite. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que son frère lui a dit, faut pas que tu te retrouves devant moi parce que moi, je te coupe la tête. Et peut-être que le chasseur, il l'aurait fait pour le gibier qui était son frère. Mais bon, Alors il est parti. Quand il est parti, sa mère lui a dit, tu vas partir pendant quelque temps, la colère va se passer, ça va durer quelques semaines, quelques mois au plus. Mais vous savez que ça durait 21 ans, hein. Parce qu'il pouvait pas revenir. Parce qu'il y avait de la haine dans le cœur de Ésaü. Et puis, dans sa fuite, il est allé au bon endroit. Parce que vous savez, il n'y a pas de hasard. Quelquefois, le Seigneur du haut du ciel, lui, il envoie tout ce qu'il faut pour tracer notre chemin. Alors, il est arrivé chez un homme qui était son oncle. Il s'est réfugié aussi dans une autre famille qui était parentée, naturellement. Et cet homme s'appelait Laban. C'était un homme riche, c'était un homme considérable, etc., etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que Jacob, l'usurpateur, le trompeur, le menteur, le troublion, eh bien, s'est retrouvé en face d'un homme qui est exactement comme lui. Laban, c'était un trompeur, c'était un menteur, c'était un roublard, c'était un combinard, etc., etc. Et quand Jacob est arrivé dans la maison de son oncle, ben, il pouvait se regarder dans un miroir parce que son oncle, c'était exactement ce qu'il était, et lui, il était comme son oncle. Alors, je peux vous dire, quand vous mettez deux personnes qui sont pareilles, puis qui ont des tempéraments et du caractère, ça fait des étincelles. Alors, les étincelles, elles sont pas faites peut-être dans la violence, mais à travers toutes sortes de mensonges, toutes sortes de choses. C'était l'homme reflet de Jacob, Laban. Et il était véritablement son tempérament et son caractère. Donc, quand Jacob n'avait pas besoin de se regarder dans une glace, il regardait son oncle et il disait « c'est moi ». Sur le plan moral, hein, parce que je peux vous dire qu'ils ne se valaient pas cher l'un et l'autre. Hein. Vraiment, ils ne valaient pas cher. Et on connaît l'histoire ensuite qui est racontée, c'est que tel est pris qu'il croyait prendre. Et à ce moment-là, c'était une période de tromperie, de toutes sortes de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est terminé par 21 ans de servitude, avec les beaux yeux de deux jeunes filles. Il y avait l'aînée de Laban qui s'appelait Léa, et puis il y avait la cadette qui s'appelait Rachel. Jacob aimait Rachel, pas trop Léa, mais le père, parce que c'était peut-être les traditions à l'époque. Eh bien, il ne pouvait pas donner la cadette, bon, la polygamie, mais il ne pouvait pas donner la cadette avant d'avoir donné finalement l'aîné. Ce qui s'est passé, vous savez, le droit des nains, il est là aussi, hein, si vous connaissez l'histoire. Et bien, il lui a dit, voilà, je te donne ma fille Rachel, et puis au moment de donner la fille Rachel, il a donné Léa. Il a travaillé 7 ans pour Léa. Ensuite, le père lui a dit, bien écoute, maintenant tu vas avoir la seconde, mais tu vas travailler encore 7 ans pour moi. Bah, dites donc, faut vraiment aimer. C'était une histoire abracadabrante. Mais oui, mais ça, c'est l'histoire des trompeurs. Si vous trompez, vous serez trompé. On trouvera toujours son maître sur notre route. Quelqu'un qui sera plus fort que nous. Alors, il a travaillé encore 7 ans de plus, donc 3 x 7, 21. Imaginez-vous, hein. Et le piège de Jacob dans lequel il est tombé, c'était l'ambition. C'était un garçon qui était ambitieux, tout simplement. Voilà, il voulait y arriver. Malgré tout, il y a quelque chose qui est à signaler, c'est que Jacob est, malgré tout son caractère, malgré ses gros défauts, parce qu'on pourrait dire que c'est des petits, eh bien, était un homme de foi. Ouais, il avait le sens du sacré. Parce que dans son enfance, depuis qu'il était tout petit, son père Isaac lui avait appris, eh bien, qu'il y avait un Dieu dans le ciel. Puis alors, voilà, il a grandi comme cela. Autant Ésaü était un homme complètement détaché, profane, on pourrait dire, autant Jacob avait le sens, finalement, du sacré. Et on s'aperçoit que il avait gardé ça dans son cœur. Comme quoi, c'est assez troublant. Hein. On peut avoir une nature brute, comprenez, une vieille création, un vieil homme à l'intérieur de nous-mêmes, et puis à côté de ça, avoir des aspirations vers Dieu. C'est curieux, hein? Remarquez, c'est certainement pour tout ce que nous en sommes ce soir à écouter ce message, c'est certainement ce que Dieu a vu, hein. Parce que vous savez, il n'est pas venu nous chercher parce que nous étions des anges ou que nous étions des saints, mais il est venu parce que nous étions perdus. Et il savait très bien qui nous étions et ce que lui voulait faire de nous. Alors, ça c'est l'histoire, naturellement. Et nous apercevons que il avait donc ce sens du sacré. Je l'ai dit tout à l'heure, il avait une mère, Jacob, qui s'appelait Rebecca, et qui avait inculqué à son fils, parce que c'était son préféré, l'habileté, parce que là, elle est quand même pas mal quand vous lisez l'histoire de Rebecca, Eh bien, elle avait l'habileté en elle-même à plier toute chose à son gré selon ses intérêts. Quand elle voulait quelque chose, eh bien, par la porte ou par la fenêtre, elle y arrivait. Quitte à mentir, quitte à... Alors on comprend que Jacob était un petit peu... avait la personnalité de sa mère avait des teintures. Par contre, Jacob, d'un autre côté, avait hérité d'Isaac et d'Abraham, son grand-père, la persévérance. Des gens qui veulent aller jusqu'au bout. Ça, c'était la détermination de Jacob. On va le voir tout à l'heure. Mais derrière toutes ces pantomimes, eh bien, il avait quand même la tendresse du cœur. Et il avait la foi au monde de l'invisible. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il avait confiance en Dieu, dans un Dieu qu'il ne voyait pas. Mais il avait cette confiance. Par-dessus tout, Jacob croit en Dieu et en ses promesses. Il sait très bien que Dieu lui a dit certaines choses. Et ce qu'il lui a dit, eh bien, Dieu va l'accomplir. Mais il n'attend pas que Dieu les accomplisse au bon moment. Lui, il commence à y mettre la main pour se servir. Et ça, c'est vraiment le problème. Ça peut être le problème aussi de certains chrétiens. Seigneur, je crois que tu as quelque chose pour moi. Je crois que tu m'as fait des promesses. Mais j'attends pas, hein. Moi, je me sers tout de suite. Alors là, vous allez voir que quand on fait ce genre de démarche vers Dieu, ça peut marcher, mais il y aura certainement des larmes à verser. Parce qu'un fruit, quand il n'est pas mûr, faut pas y toucher. Si vous y touchez et que vous croquez dedans, eh bien, vous allez avoir de l'amertume. Et ça, c'est ce qui s'est passé, en effet, pour Jacob. Alors, il y a, on peut dire, deux tempéraments et deux personnalités qui se heurtent en lui. C'est ce qu'on appelle la double nature. L'apôtre Paul en parlera dans Romains chapitre 7 quand il dira ceci. « Quand je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Je veux m'investir à faire de bonnes choses et je m'aperçois que mes mains, ou mes pensées, ma tête, mon cœur, mes sentiments, eh bien, produisent le contraire. » À tel point que Paul va avoir en lui-même une double nature, un deuxième homme, un homme qui veut plaire à Dieu parce qu'il a la foi en Dieu, comme Jacob. Et puis alors, à chaque fois qu'il se trouve finalement devant les choses à faire, eh bien, au lieu de faire le bien, il fait le mal. Voilà. Je suppose que quelquefois, c'est arrivé à Jacob de dire, mais je regrette d'avoir fait le mal. Mais il l'avait fait quand même. Et ça, c'est la nature des hommes. Hein, parce qu'on a une conscience, naturellement. Alors, on arrive à comprendre un peu tout cela, tout ce qui se passe, et on peut dire que c'est un homme d'une grande complexité. C'est pour ça que j'ai pris le mot atypique, hein, un homme qu'on n'arrive pas à saisir. On ne sait pas s'il est d'un côté, s'il est de l'autre, comment il fonctionne. Donc, c'est une complexité, et il est autant capable de faire du bien, autant de faire du mal, c'est ce que nous avons dit. Alors, les résultats, si on veut déjà donner un tracé de son caractère, eh bien, on va dire tout simplement qu'il abuse de son père en le trompant, il trahit Laban, et il va dépouiller son frère. C'est déjà pas mal, hein, en état de, comme état de service. Hein. Alors, il s'était fait des ennemis, naturellement. Parce que là, c'est pas des choses. Quand vous faites le bien, ben, on va, naturellement, eh bien, apprécier, et on va voir quelle est cette personne qui fait le bien. Mais quand on fait le mal, on en garde des souvenirs, hein. Et quelquefois de la vengeance, quelquefois même de la haine. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est un personnage qui est particulièrement intéressé à lui-même. Et on va voir qu'à un moment donné, lorsqu'il est en fuite de la maison de paternelle, que son frère veut le tuer, il va s'arrêter dans un endroit qui s'appelle Bethel. Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Jacob va se trouver à la soirée, il va passer la nuit dans ce lieu, et il va prendre une pierre, tout simplement, pour se coucher dessus. Remarquez, c'est assez dur, hein, quand même. Mais enfin, bon, toujours est-il que, voilà, il va prendre une pierre, je ne sais pas dans quelle configuration, mais toujours est-il que... Et là, il va y avoir une révélation. Dieu va lui parler. Dieu sait toute sa vie. Mais Dieu va l'encourager à ce moment-là, non pas à continuer à faire le mal, mais à l'encourager à poursuivre son voyage, aller un petit peu plus loin. Il va lui dire, voilà, eh bien... Hein, par à travers une ce qu'on appelle la vision de l'échelle, il va voir des anges qui montent et qui descendent du haut du ciel et tout ça. Et quand Jacob va se réveiller, il va dire « Mais je ne savais pas que Dieu est au milieu, il était dans ce lieu. Je ne savais pas, j'ignorais. » Et là, à ce moment-là, le côté spirituel, nous pourrions dire le côté de foi, va reprendre le dessus chez Jacob et il va faire un autel, il va mettre de l'huile dessus, il va faire des libations en tout ça en disant « Seigneur, je te remercie. » Après, il va faire un contrat. C'est ce qu'on appelle le contrat de Bethel. Alors il va dire au Seigneur, ce qui montre bien son caractère quand même vénal, il va dire, bien Seigneur, si tu bénis mon voyage, si tu me donnes la nourriture dont j'ai besoin, si tu me donnes les vêtements, si tu me donnes un toit, si tu me donnes ceci, ceci et cela, alors Seigneur, je te donne tout le reste, hein. Pas de problème. Tu fais d'un côté, tu fais de l'autre. Avec Jacob, c'est un homme, c'est du donnant-donnant. Si Dieu bénit, eh bien, Jacob va bénir Dieu, mais si Dieu s'arrête, eh bien, il n'y a plus rien du tout, vous comprenez? C'est une forme de mercantilisme, une forme de troc, comprenez, de commerce. Et ça, c'est Jacob, naturellement. Et nous nous apercevons que, eh bien, Jacob, c'est un homme qui calcule. Il fait rien spontanément de son cœur, hein, même s'il a quand même de la tendresse. Non, non. Il y en a beaucoup comme ça. Et ça fait partie de cette personnalité qui, quelquefois, est vraiment ingrate. Quand vous avez des gens qui viennent vers vous avec beaucoup de miel et qui vous disent « Ah ben oui, vous savez, moi j'aimerais bien ceci et cela », mais que quelque part, on sent que c'est intéressé, c'est pas toujours intéressant, naturellement. Alors, c'est un homme qui calcule. Je voudrais dire quelque chose d'important que j'aimerais que vous mémorisiez ce soir. Le grand Abraham, l'homme de foi, l'homme du miracle, l'homme qui a obéi à Dieu sans comprendre, d'une manière totale. Pour Abraham, l'obéissance est la condition du succès. Lui, il raisonne comme ça. Seigneur, je vais t'obéir, je vais te faire confiance, je vais t'obéir, et je sais que tu me béniras, tu me donneras du succès dans mes entreprises. Or, Jacob, lui, c'est tout l'inverse. Le succès est la condition de l'obéissance. Seigneur, si tu me bénis, eh bien moi je t'obéirai. Vous avez vu la interversion là? Quelquefois, c'est encore dans la tête des enfants de Dieu, hein. C'est encore dans la tête des chrétiens, vous comprenez? Jacob est un homme qui fonctionne à l'envers. Tu me bénis d'abord, et après, je te sers. Je t'obéis, Seigneur. J'irai jusqu'au bout de la terre, mais faut que tu me bénisses d'abord, hein, parce qu'autrement, c'est pas possible, hein. Ouais. La foi d'Abraham s'exprime par le renoncement. C'est bien ce que nous enseigne l'Évangile. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et puis, voilà, s'il m'aime plus que son père, sa mère, eh bien, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Abraham, c'est le renoncement. C'est bien Abraham qui a dit rien pour moi, hein. Au moment où il pouvait s'emparer de toutes les richesses. Il a dit non, moi, j'y toucherai pas. Mon véritable trésor et ma véritable richesse, c'est ma foi en Dieu, c'est mon Dieu. Alors que Jacob, lui, utilise Dieu. N'ayons pas cet état d'esprit, hein. Et ça peut arriver. De faire finalement de la foi, quelque chose de rentable, quelque chose qui nous va bien en quelque sorte. Donc, Abraham, c'est l'homme du renoncement, celle de Jacob a pour mobile ses intérêts personnels. On appelle ça comment? L'ego, l'égoïsme, ouais. Mais est-ce que vous croyez que Dieu n'est pas assez riche pour nous donner tout? Est-ce que vous pensez que Dieu n'a pas les mains suffisamment grandes pour bénir sa création entière, l'univers entier? Mais c'est justement dans cette démarche de Dieu, c'est que tous les hommes soient bénis. Il fait pleuvoir, eh bien, sur les bons comme sur les méchants. Mais Jacob, lui, c'était son monde à lui, c'était lui, tout simplement. C'est l'égoïsme. Alors, figurez-vous que à partir de ce moment-là, des années se sont passées, des années de tromperies, d'intrigues, toutes sortes de choses. Alors, à un moment donné, Dieu va prendre, parce que ça ne vient pas tout de suite, hein. C'est pas forcément immédiat, toutes ces choses, hein, mais ça vient un jour, hein. Et vous savez pourquoi ça vient? Parce que Dieu veut nous sauver malgré nous. Bon, si on n'en veut pas, on n'en veut pas, mais je veux dire que il mettra tout en place pour que nous puissions être prêts pour aller au ciel. Et le ciel, c'est pas comme sur la terre. Au ciel, on ne ment pas. Au ciel, on ne trompe pas. Au ciel, il y a des choses qui n'existeront jamais. Parce que c'est le ciel, tout simplement. Alors Dieu va prendre les choses en main, il va prendre Jacob en main, et il va lui apprendre les dures leçons de la vie. Parce que si Dieu n'arrive pas à nous raisonner, à nous amener à sa sagesse, s'il ne parvient pas à nous discipliner, ben vous savez ce qui va se passer, et ça c'est une vérité, hein, je dis ça comme ça ce soir, mais attention, hein, c'est un chemin de toute la terre, hein, même ceux qui ne croient pas en lui. Mais particulièrement ceux qui ont foi en Dieu, eh bien, les chemins de l'expérience, tout simplement. Alors, mais là, Jacob commence à sentir, après avoir vieilli, après avoir fait quand même pas mal les 400 coups, il va commencer à réfléchir à toutes les bêtises qu'il a pu faire dans son existence. puis les choses, ses fourberies et tout le reste, ça commence à lui empoisonner la vie. Il a empoisonné la vie des autres, allègrement, en disant « c'est bien fait pour eux, ils sont terribles, mon frère, et puis mon oncle là-bas, hein, ils ne valent pas cher ». Mais c'était lui qui valait pas cher non plus. Et jusqu'alors, il avait fait les choses dans une certaine inconscience du mal qu'il faisait. Mais là, il va se passer une chose, c'est que Dieu va mettre, vous savez, par petites touches comme ça dans son cœur, il va l'amener progressivement à voir que ce n'est pas seulement les autres qui posent problème, qui l'empoisonnent, mais c'est lui qui a empoisonné aussi les autres. Alors, il va commencer à en souffrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il va souffrir de lui-même, il va souffrir de son tempérament, de son caractère, et peut-être parfois faire monter cette prière, « Mais Seigneur, change-moi, transforme-moi. » Alors il a peur, et c'est bien quelquefois certaines peurs, parce que ça nous ramène, eh bien, entre les mains de Dieu. Parce que quel est le protecteur que nous pouvons avoir? On peut avoir des protecteurs multiples d'une manière ou d'une autre, assurance et surassurance, pour les choses de la vie, ça c'est le monde. Mais quand il s'agit de nous-mêmes, quand on est face à nous-mêmes, quand on est face à notre misère, quand on est face peut-être même à la mort, ou à cette destruction progressive de notre identité ou de notre personnalité, alors il n'y en a qu'un, hein. C'est le Seigneur qui peut nous aider. Et là, nous voyons que, à un moment donné, il apprend que son frère Ésaü, 21 ans après la première querelle, s'approche de lui avec une armée pour le tuer. Vous connaissez l'histoire, hein, vous l'avez lu naturellement. Et il y a donc son frère. En même temps, d'un autre côté, c'est Laban qui le poursuit pour lui faire rendre compte, parce qu'il lui avait quand même, excusez-moi, mais lisez l'histoire quand même. Hein. Il l'a quand même bien roulé avec l'histoire des biquettes. Hein. Vous connaissez l'histoire des biquettes? Ah, ça vaut la peine. Ah ouais, il lui a piqué tout son cheptel. Mais il lui a pas pris les biquettes comme ça. Il a fait toute une histoire de reproduction de biquettes, et puis finalement ça s'est tellement bien multiplié qu'il a pratiquement emmené tout le troupeau. Quand Laban a vu ça, il a dit « Mon petit gars, tu vas pas aller loin, hein, moi je te coupe la tête aussi ». Donc il avait un ennemi d'un côté qui était son frère, il avait également un autre ennemi qui s'appelait Laban. Il était serré de tous les côtés. Vous savez, quand on y réfléchit bien, quelquefois il y a des choses que Dieu produit dans notre vie pour nous amener à réfléchir. Hein. Alors si on peut pas crier d'un côté, si on peut pas crier de l'autre, on peut crier vers le haut. Hein. Et ça a été une drôle d'histoire, naturellement. Alors, à ce moment-là, c'était pas du propre, hein, parce que quand même, Jacob s'était enrichi d'une manière tellement malhonnête. Hein. Il y avait beaucoup de doutes sur la manière dont il avait acquis ses biens. Mais il pouvait dire « je suis riche maintenant ». Ouais, il était riche à cause de son mensonge. Il était riche à cause de ses tromperies et toutes sortes de choses. Il y a une chose qui commençait véritablement à l'ennuyer sérieusement, puisque je vous ai parlé d'empoisonnement, c'est que il pouvait être riche, il pouvait avoir ses femmes, il pouvait avoir ses enfants, il pouvait avoir des serviteurs par dizaines, il pouvait avoir des troupeaux, un cheptel considérable, mais c'était au prix de son repos, de sa sécurité. Il n'était pas heureux. Comprenez, comme le fils prodigue qui a eu de l'argent, qui il a eu tout ce qu'il voulait lorsqu'il est allé se balader un petit peu dans différentes contrées, mais à un moment donné, il était malheureux. Et là, il a touché du doigt que finalement, c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est pas la liberté usurpée qui fait le bonheur. Ce n'est pas parce que, voilà, on associait cela. Et là, il avait peur à ce moment-là. Il se dit, mais s'ils me tombent dessus, ils vont me prendre tout. Puis moi, j'ai plus rien. Alors, il est toujours inquiet, Jacob, dans la mesure où il est prospère et qu'il sent qu'il n'est pas heureux. Vous savez, c'est pas la prospérité, hein, que nous voyons dans ce monde qui rend les gens heureux. Au contraire, plus ils ont d'argent, plus ils sont insécurisés. Ben oui. Plus ils sont fragiles, plus ils sentent que quelque part, eh bien, finalement, tout cet argent, eh bien, ça devient un souci, hein, pour certains. Enfin bon, je pense. Hein. Alors, il s'est passé cette chose, et je vais la lire, parce que ça va être la conclusion de notre histoire. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, vous pouvez le lire avec moi, on va l'ouvrir, hein, ce livre. Au verset 24, il s'est passé quelque chose. Et c'est là où on peut dire qu'il y a eu un avant et un après, ce qu'on appelle communément en théologie biblique, la conversion de Jacob. Alors on va le lire. Genèse, chapitre 32, verset 24. Vous allez voir, c'est une petite histoire qui est pas longue, mais ça en dit long quand on comprend ce que ça veut dire, ce qu'il y a dedans. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, voyant qu'il ne le maîtrisait pas, ou qu'il ne le contrôlait pas, qu'il ne pouvait le vaincre, si vous voulez encore d'autres traductions. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il lui dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Alors l'homme lui dit, Jacob lui dit « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il dit encore « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. » Connaissez le nom d'Israël, hein ? L'origine, elle est là. Ce jour-là, cette nuit-là particulièrement. « Ton nom sera Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en lui disant « Mais fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Écoutez bien, « Mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point de tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Voilà, ça, c'est l'heure cruciale de la vie de Jacob. La petite phrase qui apparaît au verset 24, c'est « Jacob demeura seul ». Jacob avait été un homme qui avait toujours su s'entourer de tous ceux qui pouvaient l'aider, de tous ceux qui pouvaient, par des combines, le sortir de tous les traquenards ou de toutes les situations impossibles dans lesquelles il s'était mis. Mais là, il nous est dit qu'il est demeuré seul. Il n'y avait plus rien autour de lui. Et en plus, ça se passait en pleine nuit. Dans un endroit qui s'appelle Péniel, ça veut dire « celui qui coule », c'est-à-dire un torrent. Et dans une région déserte aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est que on arrive au moment crucial et l'heure de vérité pour Jacob. À un moment ou un autre, tous les chrétiens passent par là. Tôt ou tard. Ça peut être l'occasion de notre conversion, de notre salut, nouvelle naissance, etc., etc. Mais moi, je dirais que quelque part, Jacob était quand même un croyant depuis bien longtemps. Mais quelque part même, dans certains carrefours de notre vie, quelle que soit notre marche avec le Seigneur et les années de marche avec le Seigneur, il y a toujours un moment ou un autre où Dieu nous dit « Maintenant, on va mettre les choses en place ». Ce n'est pas un jugement. Ce n'est pas une condamnation, je tiens à le dire. C'est une réinitialisation, vous savez comme en informatique. C'est-à-dire que les pendules sont mises à l'heure. C'est-à-dire que Dieu nous appelle pour être sauvés et que quelquefois nous ne sommes pas toujours sur le chemin du salut, ou nous ne sommes plus toujours, ou nous prenons des libertés. Et Dieu nous dit, bien maintenant, voilà, on va reformater tout ça et on va repartir dans une bonne direction. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs. L'œuvre de vérité, c'est la crise de la conversion de Jacob. Où là, véritablement, eh bien, il va être transformé et changé. On le voit à travers le récit, Dieu lui barre la route sous les aspects voilés d'un homme mais qui est un ange. Voilà. Et Dieu lui barre la route, il dit, tu n'iras pas plus loin maintenant, il faut régler les problèmes. La lutte avec cet homme est une lutte terrible parce qu'il nous est dit qu'il lutta jusqu'au lever de l'aurore, c'est-à-dire du crépuscule, une nuit entière. Mais Jacob avait bien le goût de se battre, il aimait bien se battre avec les hommes. Et il aimait bien les vaincre, et souvent il était victorieux. Mais là, cette fois-ci, ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas avec les hommes qu'il va se battre, c'est avec un homme qui est l'image quand même de Dieu derrière. Une lutte à mort en quelque sorte. Parce que soit il va en mourir, ou soit la mort dont il va être frappé va se changer en résurrection, va se changer en vie nouvelle, en renaissance. Et il nous est dit que l'homme avec lequel il luttait le frappa à l'emboîture de la hanche. Il a pris ce coup et à ce moment-là, eh bien, il nous est dit un peu plus loin, Jacob va boiter tout le reste de ses jours après pour lui rappeler au souvenir, même s'il ne souffrait plus, mais lui rappeler au souvenir qu'il y a eu une victoire à un moment donné sur lui-même. Parce que la véritable victoire, c'était pas sur les autres, c'était par rapport à une victoire sur lui-même. Qu'est-ce que va devenir Jacob ? Alors Jacob, dans cette période d'angoisse, d'anxiété à l'extrême, dans cette terrible nuit de Péniel, alors il va se retourner vers celui vers lequel il lutte, il va lui dire ceci, « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. Je vous avais parlé de la persévérance de Jacob. Il l'avait hérité de son père et de son grand-père. Mais il a raison, parce que Jésus nous dira la même chose. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Voilà. Et que ceux, si véritablement nous aspirons profondément dans notre vie, pour une chose ou pour une autre, mais particulièrement dans un caractère moral, en disant « Seigneur, je me bats avec ceci, je me bats avec cela, Seigneur, tu le sais. Alors, donne-moi véritablement une victoire par rapport à ce problème. » Et le Seigneur a entendu les prières. Et le Seigneur va l'entendre. Et à un moment donné, eh bien, il va faire ce que nous avons demandé. Mais Jacob est un homme qui veut aller jusqu'au bout. « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. » Le sens du sacré et de la foi de Jacob, c'est que véritablement, il veut être béni. Et si nous nous sommes déterminés à être bénis de Dieu, mais Dieu va nous bénir. Si nous prenons les choses à la légère en disant « Seigneur, tu bénis ou tu bénis pas, ça change rien à ma vie », eh ben, vous pouvez toujours attendre longtemps pour la bénédiction de Dieu. Il faut être déterminé, il faut être résolu. Il faut être capable de faire montre de foi dans une grande détermination. Alors, dans ce combat singulier, alors il va recevoir un nom nouveau, Jacob. L'homme qui se bat avec lui lui dira « Tu ne seras plus Jacob. Entendez par là, tu ne seras plus un menteur. Tu ne seras plus un supplanteur. Tu ne seras plus un usurpateur. Tu ne seras plus ce que tu as été, mais ton nom maintenant, eh bien, sera Israël. » Parce que tu as lutté avec Dieu, et tu as lutté avec des hommes, et tu as été vainqueur. Voilà, tu as été vainqueur. Et cette victoire, on le dit et on le redit, c'était une victoire sur lui-même. Une conversion, la conversion d'un homme, ce n'est certainement pas de passer d'une religion à une autre, mais elle passe par un préliminaire que l'on appelle la prise de conscience de notre perdition et de nos péchés, pour nous amener à nous repentir, donc demander pardon à Dieu. C'est ce qui se passe là dans l'histoire de Jacob. Et ensuite, ce qu'on appelle la conversion, c'est qu'après, eh bien, ce n'est pas un choix d'une religion, ce n'est pas d'un choix d'une option, d'une idéologie chrétienne soit-elle, mais c'est véritablement choisir Dieu et choisir Jésus-Christ dans le monde chrétien que nous sommes. Alors à ce moment-là, c'est une transformation, et à ce moment-là, ce n'est plus moi qui conduis ma vie, c'est Christ qui va la conduire pour moi et qui va commencer à me transformer, à faire un travail de restauration, un travail de reconstruction. Il va prendre les ruines et puis il va bâtir dessus. Mais quelque chose de solide et quelque chose de bon, quelque chose de neuf et quelque chose de vrai. Alors, de cette expérience, Jacob va en ressortir complètement épuisé. D'abord, il est blessé. Ça sera le souvenir de cette lutte. Faut pas qu'il l'oublie. Jacob, tu es converti maintenant. Chacun d'entre nous, nous pouvons y dire notre nom et Dieu nous dit « Mais tu es converti ». Voilà, je suis ton Dieu, et tu es pour moi maintenant, eh bien, tu es mon enfant. Et il va en ressortir complètement, finalement, eh bien, épuisé, meurtri, blessé, mais il est vainqueur. Ouais, il est vainqueur, c'est la différence. Alors, cette nuit-là, Jacob connaît la plus épouvantable des épreuves. C'est l'inventaire et le bilan de sa vie, en quelque sorte. Vous savez que dans le monde des affaires ou des entreprises, on fait un inventaire, c'est normal, hein. Voir un petit peu ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, est-ce qui a été vendu, etc., etc. Mais là, c'est l'inventaire de ce qu'il est. Et quand il va regarder, eh bien, finalement, il va voir qu'il n'y a plus rien de bon. Et que maintenant, c'est pas une cause, même s'il n'y a rien de bon. C'est pas une cause que Dieu condamne et rejette les hommes et les empêche de rentrer dans le salut, dans son salut et dans son éternité. C'est à ce moment-là qu'il va y avoir tout un processus que l'on appelle la nouvelle naissance. Et il va toucher du doigt sa misère morale. C'était toujours les autres qui étaient pas bien. Et là, Jacob, il va voir que dans le miroir, eh bien, c'est lui. Alors, nous nous apercevons que là, il va y avoir des changements. Parce que quand Jacob s'est servi de Dieu, c'était pour profaner son nom. Et il a exploité, finalement, cet avantage qu'il avait de dire, moi, je suis un croyant, je crois en Dieu. Et, dans ce premier temps, eh bien, Jacob va lutter de toutes ses forces naturelles, charnelles, un corps à corps en quelque sorte, mais la force humaine ne suffit plus à un moment donné. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Alors il va plier, il va casser, Jacob. C'est la première fois qu'il casse, vous comprenez? Et quand ça casse, ça fait du bruit. Et quand ça casse, ça fait mal aussi. Mais quand Dieu casse quelque chose en nous, qu'est-ce que ce soit d'ordre psychologique ou morale, même spirituel, une fausse conception spirituelle qui nous fait de nous des idolâtres, hein, ou peut-être même affectifs ou sentimentaux, mais c'est pour nous donner quelque chose de meilleur. Parce que vous vous souvenez, maintenant il ne s'appelle plus Jacob, il s'appelle Israël, c'est autre chose. Et cette présence de Dieu va tellement l'accabler qu'il va accepter. Et il a trouvé enfin celui qui est plus fort que lui, et il s'incline à ce moment-là. Et il va pour la première fois peut-être de sa vie, au lieu de calculer, au lieu de troquer avec Dieu, il va demander grâce. Parce que la grâce, ça ne s'achète pas. La grâce, elle se reçoit tout simplement par la foi. Et Jacob a crié cette fameuse parole que nous avons lue tout à l'heure. Hein, c'est une parole de victoire sur lui-même. « Je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni. » Ça, c'est la prière de Jacob, qui exprime finalement le changement radical qui s'opère dans son âme, dans sa vie profonde. Alors Jacob, le supplanteur, est devenu Israël, nous l'avons dit tout à l'heure. Et le torrent de Jabbok, c'est-à-dire ce lieu-là où s'est passé les choses, de ce torrent-là, au petit matin, à l'aurore, un homme nouveau est né. J'aime bien cette expression. Un homme nouveau est né dans ce monde, comme plus tard, beaucoup plus tard, un homme comme Pierre va naître de nouveau lorsqu'il pleura de repentance sincère après avoir trahi Jésus. Comme un autre homme qui s'appelle Paul pleurera de toutes ses larmes, des larmes de repentance profonde, sincère, lorsqu'il sera sur le chemin de Damas. Et je vous dis, je vous en ai cité trois, mais il y en a des centaines et des milliers dans toute la Bible. Et encore aujourd'hui, des gens qui font cette expérience, il y en a tout autour de nous. Alors la conclusion, elle est bien simple. Elle est très claire, c'est qu'en définitive, qu'est-ce que nous apprenons de la vie? Voilà, qu'est-ce que nous apprenons de la vie? Être chrétien, c'est de venir se mettre sur les chaises, de chanter des cantiques, de pouvoir prendre sa Bible, etc., de prier, etc., etc. Ça fait partie de la vie chrétienne. Mais est-ce que ce n'est que seulement ça? Est-ce que nous ne sommes pas appelés à être transformés et changés pour nous préparer à la dimension du ciel, ce que l'on appelle le caractère même de Jésus en nous? C'est ça la question. Qu'est-ce que nous apprenons? Est-ce que c'est suffisant? Parce que les pharisiens étaient suffisants eux-mêmes. Ils allaient au temple 3 fois par jour, ils donnaient leur argent, ils faisaient cela. C'était des actes de piété, des actes de dévotion et des actes religieux, mais pas plus. Quand on voit la mentalité qu'ils avaient, remplie de haine, remplie de venin, on se dit, mais ça n'allait pas loin tout ça. D'ailleurs, Jésus va les fustiger. Alors, je voudrais simplement, pour terminer, dire deux ou trois petites choses, pour un petit peu reprogrammer cela. C'est que les progrès de la foi, de la vie chrétienne, on peut dire ça comme ça, passent par le renoncement à soi-même. Et mourir à soi-même, eh ben, c'est pas évident. c'est pas facile, parce que l'homme peut être quelquefois très désagréable et juge par rapport aux autres, mais il est souvent indulgent avec lui-même. Le renoncement à soi-même, c'est pas simple. Et si Dieu n'y met pas la main, eh ben, on n'y arrivera pas. Parce que tant qu'on veut faire les efforts par nous-mêmes, eh ben, on se trompe. Il a fallu que Jacob soit cassé pour dire « Seigneur, viens à mon secours maintenant. » La deuxième chose, c'est que la vraie religion, dans le sens le plus noble, spirituel, n'est pas une piété utilitaire ou intéressée. Ah ouais, peut-être qu'il faut le dire parce que vous savez que les doctrines de prospérité qu'il y a aujourd'hui, même dans le monde évangélique, on se demande si quelque part notre Dieu, c'est pas Jacob et Mammon. Hein. Ah oui, Seigneur, tu me bénis, alors tu te rends compte? Mais c'est pas une affaire comme ça. Et Jacob, jusqu'alors, avait fait finalement de sa foi une foi déroutée, une foi faussée, parce que pour lui, sa dévotion dans le Dieu de ses pères, c'était intéressé et c'était utilitaire. Seigneur, si tu me bénis, ah mais moi je vais faire ceci et cela. Attendez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Troisième chose, c'est qu'aimer Dieu, ce n'est pas avoir peur, quelquefois, de l'école vigoureuse ou rigoureuse dans laquelle il nous conduit. Il le fait pour notre bien. À ce titre, Paul l'avait compris, quand il écrira dans Romains chapitre 8, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son salut. » Donc voilà, il y a la notion d'amour, mais toutes choses, et il y en a des bonnes et des mauvaises. Mais les mauvaises, eh bien, elles sont faites pour que véritablement nous devenions bons. C'est pas pour nous tuer, c'est pas pour nous détruire. Quatrième chose, c'est que il faut apprendre à obéir sans attendre de récompense. Seigneur, tu sais, je suis très fidèle, je suis consacré, je fais ceci et cela, mais dis donc, tu renvoies un petit peu de mon côté quand même, ça serait pas mal, hein, pour que je puisse être encouragé. On n'a pas besoin de demander au Seigneur, il va le faire. D'accord. Et si on ne vit qu'avec cette pensée de dire, eh bien Seigneur, dis donc, je suis un bon chrétien, tu peux quand même, et je suis un bon chrétien, et tu vois, pourtant il m'arrive des choses, tu devrais pouvoir éviter ces choses sur ma vie. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche non plus. Et puis, finalement, c'est à séparer la foi de nos mobiles de prospérité, nous l'avons dit tout à l'heure. Et c'est nourrir notre confiance en Dieu, même dans l'adversité. Alors je termine en reprenant simplement le texte que nous avons lu tout à l'heure, dans simplement 2 Corinthiens, parce que je pense que c'est ça la signification de ce que Paul a voulu probablement nous dire au chapitre 5 et au verset 17. Il est dit ceci, si quelqu'un est en Christ, eh bien il est une nouvelle création. Non seulement une nouvelle création parce que Dieu nous a transformés, mais nous sommes devenus une nouvelle créature par voie de conséquence. Et puis, des choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu. Notre brave Jacob a eu une longue vie après cette histoire, mais il n'était plus le même homme. Il a passé par des histoires, il a passé par des épreuves, il a passé par toutes sortes de choses. Vous savez à quel âge il est mort ? À mettre les caisses de retraite en faillite. Il avait 127 ans, hein, imaginez-vous. Alors là, vous mettez le gouvernement à plat. Hein. Pas lui d'annoncer des nouvelles comme ça. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'à la fin de sa vie, devant Pharaon, parce qu'il se retrouvera en Égypte, ouais, c'était pas prévu au programme ça, hein, et il dira à Pharaon, ma vie a été courte. 127 ans, c'est pas mal, il devait peut-être pas avoir tout à fait la notion des choses. Ma vie a été courte, elle a été mauvaise. Mais la vie de Jacob a été mauvaise, pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a rendue mauvaise. Et après, bon, il s'est mis à l'école de Dieu, c'était certainement un autre homme changé. Mais écoutez, c'est une sacrée histoire quand même, hein, que l'histoire atypique de Jacob. Ben vous savez, on n'est pas loin de la vérité pour chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. En tous les cas, nous voulons dire au Seigneur, je ne te laisserai aller que tu ne m'aies béni, parce que je crois que c'est encore auprès de toi qui est le meilleur. C'est la vie auprès de toi, c'est la paix, c'est le bonheur. Alors Seigneur, moi je veux de toi, et je te demande de venir me transformer, me changer, pour être une nouvelle création, une nouvelle créature. Alors on va prier quelques instants si vous voulez. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier parce que ta parole, en effet, elle nous enseigne beaucoup de choses. Elle nous enseigne, Seigneur, que mourir, eh bien c'est vivre. Et que si nous voulons garder notre vie, eh bien nous allons la perdre. C'est ce que tu nous enseignes. Que si quelqu'un veut garder son âme, conserver son âme, eh bien il va la perdre. Mais si nous te donnons notre âme, notre cœur, notre vie, et c'est toi qui vas reprendre tout cela en sous-main, et tu vas nous nettoyer, tu vas nous laver, tu vas nous blanchir, tu vas enlever, Seigneur, toutes les scories, tu vas enlever toutes les mauvaises choses, et tu feras de nous, Seigneur, eh bien de nouvelles créatures. Et des hommes et des femmes qui vont te suivre, qui vont te servir, qui vont t'obéir, qui vont croire en toi, non pas pour ce que tu donnes, mais pour ce que tu es, Seigneur, un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu d'éternité, en d'autres termes, le Dieu de la vie, cette vie dont nous avons tant besoin, et nous te remercions et nous te bénissons dans le nom de Jésus.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.